Salut les amis et bienvenue sur Multivitaminé, le podcast qui décomplexe. Je suis Laetitia Vincent, j'ai 35 ans et je suis maman de 3 enfants. Dans la vie, je suis consultante, formatrice et coach. Et mes domaines de prédilection sont le marketing, la communication et l'entrepreneuriat. Je vous accueille avec grand plaisir sur Multivitaminé, le podcast sur lequel je rencontre et j'échange à la fois avec des personnes qui m'inspirent pour parler de leur parcours et qui sait, peut-être aussi vous inspirer. Mais je réponds également à toutes les questions que vous n'osez pas formuler à voix haute concernant le business ou la vie de manière générale, en toute décomplexion. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Manon Lecor. Manon a 33 ans, elle est expatriée à Amsterdam avec son conjoint et travaille dans un grand groupe. À côté de son job, Manon tient un blog depuis 2011 et elle fait également de la photo argentique. Elle est créatrice de contenu sur Instagram, réseau sur lequel elle tient deux très beaux comptes que je vous invite à découvrir. Manon Lecor, sur lequel elle nous livre des moments de vie, et Argentique Gal, où on peut retrouver ses sublimes photos. Manon est également autrice et se consacre à sa passion depuis de nombreuses années. En effet, elle crée des histoires qui se transforment en romans et en nouvelles. En 2018, son premier roman, Quand s'en ira la peur, est édité et se vend à près de 1000 exemplaires. Depuis, ses nouvelles sont régulièrement publiées et je l'espère nous aurons tous entre les mains un de ses romans d'ici quelques mois. À l'inverse de la plupart d'entre nous, Manon ne se définit pas par son job, mais par sa passion, l'écriture. Et c'est de cela que nous avons souhaité parler. Car en effet, pas simple de concilier une passion, un projet de vie qui demande du temps et n'est pas rémunérateur rapidement, avec un job dit alimentaire. Nous avons évoqué ses premiers écrits, l'histoire de son premier roman publié et son process d'écriture. Manon nous a également livré son organisation, depuis qu'elle a fait le choix de prendre un travail rémunérateur, mais qui lui permet aussi de se dégager du temps toutes les semaines pour continuer d'écrire. L'objectif étant d'inverser progressivement la balance et de pouvoir vivre décemment de l'écriture de ses nouvelles et de ses romans. Nous avons également parlé de vulnérabilité, de s'assumer et d'être aligné avec soi-même, la fameuse congruence dont parle Carl Rogers et qui est une valeur qui me tient à cœur. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Manon y partage quelques conseils à tous ceux qui souhaitent écrire ou qui ont un projet en cours et nous donne sa définition d'être décomplexé. Le tout ponctué de nombreux fous rires, bref, un régal. Je vous souhaite une très bonne écoute et je laisse place à ma conversation avec Manon Lecor.
Salut Manon!
Salut Laetitia!
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, très bien. Bon bah merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Je suis trop contente de t'accueillir.
Bah je suis super contente aussi. C'est mon premier podcast, c'est trop cool.
Trop cool. Bon, on va s'éclater toutes les deux. Alors je vais déjà commencer par te présenter rapidement. Donc tu es Manon Lecor, tu as 33 ans. Et avant toute chose, t'es ma belle-sœur.
Ouais.
Et c'est hyper important de le dire. Hyper important dans ta description, quoi.
Non, c'est la première chose de ma bio.
Ouais, c'est ta première chose de bio. Non, mais hyper important pour moi parce que du coup, trop contente de te recevoir et encore plus honorée que tu sois ma belle-sœur. Donc, c'est cool.
Ouais, c'est cool. Merci.
Donc, tu vis à Amsterdam, donc où tu es en couple avec ton conjoint. Tu es salariée d'un grand groupe. Tu tiens un blog depuis 2011, passionnée par l'écriture. Tu fais aussi de la photographie, notamment argentique. Donc, tu es créatrice de contenu pour ça. Tu as deux comptes sur Instagram. Le premier sur lequel on peut te retrouver, c'est Manon Lecor, L-E-C-O-R. Et l'autre, pour la photo, dédié vraiment entièrement à la photographie, c'est Argentique Gal.
Ouais.
Tu es aussi écrivaine, du coup. Ton premier roman, il est sorti en 2011. C'est Quand s'en ira la peur.
2018.
Pardon, 2018, c'est ton blog depuis 2011. 2018, en effet, ça aurait été bien, non, 2018. Et du coup, tu travailles à l'écriture d'autres romans, tout en publiant régulièrement des nouvelles sur d'autres canaux digitaux. Enfin bref, tout un tas de choses. Est-ce que ça va, Manon?
Ça va, je trouve le temps.
Ça va, tu arrives à t'organiser. Non, mais ça fait une belle bio quand même.
Ouais, ouais. J'avoue que mis tout bout à bout... C'est vrai que ça fait pas mal de choses, mais franchement, ça va.
Ça va. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, justement?
Ouais. Bah écoute, déjà, t'as dit pas mal de choses. C'est vrai que généralement, quand on doit parler de soi, on commence par dire ce qu'on fait dans la vie de manière rémunérée. Mais moi, j'avoue que je me définis plus par ce que je fais et ce qui ne paye absolument pas mon loyer, c'est-à-dire l'écriture. Oh. Donc je me définis plus comme autrice, auteur depuis maintenant quelques années. Du coup, ça va faire 4-5 ans que je me vois par ce prisme-là et non pas par le job alimentaire que je fais en parallèle qui me permet d'écrire en fait. Mmh. Donc voilà, aujourd'hui je suis autrice, en tout cas je travaille à devenir vraiment écrivain et à pouvoir à un moment donné vivre de l'écriture si un jour c'est possible.
Ouais. Et bah, du coup, si on peut revenir à l'origine de tout ça, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? Est-ce que finalement tu as toujours voulu écrire ?
Alors, pas trop. j'ai toujours beaucoup envié les auteurs qui vont dire « Ouais, moi, dès que j'ai su écrire, en fait, je savais que je voulais devenir auteur, etc. » J'ai vraiment mis énormément de temps avant de réaliser que j'aimais ça. Alors évidemment, quand j'étais ado, j'avais des journaux intimes, j'écrivais aussi beaucoup de poèmes. Je me souviens que même quand j'avais 16 ou 17 ans, je crois qu'un de mes poèmes avait été présélectionné pour un concours de poèmes, etc. Enfin, j'étais un peu à fond dans ce genre de choses, mais c'était des choses très... jamais je me disais un jour j'écrirai un livre. Ouais. Et finalement, mon expérience d'écriture, elle est venue lorsque j'ai commencé à écrire mon premier roman. Donc, j'ai commencé à l'écrire en 2014, donc ce qui est extrêmement récent.
C'est tard, ouais, finalement. Ouais, hyper tard, mais avant ça, il y avait quand même le blog, dès 2011, du coup.
Alors oui.
C'est un...
Oui, aussi, j'avais... En 2011, en fait, à la fin de mes études, face à un chômage très mal vécu, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, j'ai lancé en effet mon blog. Mais encore une fois, tu vois, c'est un peu comme les poèmes quand j'étais ado. Jamais je me disais à un moment donné ça va devenir je vais me mettre à écrire un roman, etc. Donc j'ai toujours bien aimé écrire, j'ai toujours écrit pas mal, mais jamais dans une perspective allant à ce point là aujourd'hui, quoi.
Ouais, voilà. Et, ou d'écrire, de dire mon but c'est pas d'écrire un roman, tu savais pas en fait d'être mené, quoi, finalement c'était un plaisir ou une passion, ou je sais pas pourquoi tu le faisais à ce moment là.
Oui, c'est clairement, c'était un plaisir, je pense, assez une passion. Je me souviens, par exemple, donc pendant ma dernière année d'études, j'avais une thèse à faire, comme souvent on doit le faire. J'étais en école de commerce et je devais faire un mémoire. Et j'avais pris pas mal de plaisir, mine de rien, à le faire. Et je me souviens que mon chef de... Comment on appelle ça ? Mon tuteur, mon maître de mémoire, m'avait dit « Franchement, les idées sont bonnes, mais qu'est-ce que c'est mal écrit ?»
Ah oui !
Je me souviens que ça m'avait brisé le cœur.
Parce que tu y avais mis tout ton cœur, pour le coup.
J'avais mis tout mon cœur et je trouvais qu'elle était vraiment cool. Et il m'avait dit que c'était violent, hyper mal écrit. Et c'est vrai que ça m'avait mais terriblement troublée. Donc, comme quoi, il doit y avoir depuis longtemps des petites choses au fond, là, cachées, qui ressortent finalement que depuis à peine 10 ans.
Donc du coup, si on en revient à tes premiers textes, justement, on va dire que ton premier gros texte, si on oublie les poèmes et le blog, finalement, ça va être ton premier roman. C'est ça, en fait, là, tu as vraiment lancé sur le métier. Tu veux en parler, ce premier roman, justement ?
En fait, ce premier roman, ça a été un peu genre une sorte d'accident. C'est-à-dire qu'un jour, et je m'en souviens très précisément, j'étais assise sur mon lit. J'étais chez mes parents à ce moment-là, j'étais toute seule. Et je sais pas, j'ai eu besoin d'écrire, mais vraiment terriblement besoin d'écrire. Donc, j'ai ouvert mon ordi, j'ai ouvert un document Word et j'ai écrit une première page. Et puis après, ça a été une vingtaine de pages environ. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même. Enfin, tu vois, 20 pages, c'est beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu n'écris pas de manière générale au quotidien, tu peux dire 20 pages, ça commence à être beaucoup. Et je l'ai fait lire du coup à mes proches, notamment ma mère. Et je sais que ma mère me dit, mais putain, mais c'est vachement bien et tout. Et du coup, elle te dit, oh, j'avais vu un truc, tu vois. Et je me suis dit, je vais continuer. En fait, c'était tout simplement mon premier roman. Alors, j'ai mis 2 ans à l'écrire. Mais oui, en fait, mon premier vrai texte, mon premier vrai écrit, on va dire que c'était mon premier roman. Ouais.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Tu veux nous parler de quoi ça parle ? C'est quoi ce roman ? Quand on ira la peur ? J'ai juste donné le titre, tu vois, enfin un teasing, mais globalement, le synopsis ou...
Alors, c'est aussi le truc trop marrant quand on demande à un auteur ou une autrice de quoi parle son livre. C'est genre le pire exercice, et pourtant, le mien est sorti depuis genre... ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. La quatrième de couverture, je la connais par cœur. Mais non, c'est un roman en fait qui parle de burn-out, de changement de vie. C'est l'histoire en fait d'une nana qui va en fait tout simplement faire un burn-out dans son boulot, et qui va décider de se reprendre en main et, et de changer un peu de, sa façon de vivre et surtout de changer sa perception de ce que la société peut attendre d'elle. Voilà. C'était un roman que j'ai écrit vraiment dans une logique où j'avais envie que ça parle aux gens comme ça me parlait à moi. En fait, finalement, j'ai écrit un livre que j'aurais aimé lire à un moment donné.
Ouais, ça résonnait en toi. Résonner et raisonner, quoi, tu vois, dans les deux sens du terme. J'ai envie de dire. Et en plus, ça fait du sens, et encore aujourd'hui, tu vois. Là, c'est sujet de 2000. Il est sorti en 2018. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, ça fait du sens.
Exactement. Et c'est notamment la plupart des retours que j'ai eu des lecteurs de ce roman-là. C'est-à-dire que finalement, beaucoup de gens m'ont plutôt dit « Oh, merci, ça m'a changé ma perception du truc » ou alors « Merci, je viens de quitter mon boulot » et j'étais là genre « Wow, calmons-nous quand même, c'est un roman, c'est pas un livre de développement personnel, c'est pas un conseil ou quoi que ce soit, mais je pense que voilà. »
T'as inspiré beaucoup de monde quand même.
C'est ce que, je l'espère et j'en suis super honorée en tout cas. C'est le cas.
Justement, si on déroule la bobine de ce roman, donc qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser finalement? Ce roman, il est sorti, il a été publié, ce qui est quand même juste
trop
cool. Donc qu'est-ce que voilà, une fois que tu as écrit le roman, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors c'est vrai que ça peut sembler hyper facile comme ça, genre j'ai écrit un premier roman, pouf, il a été publié.
Ouais.
Mais finalement, bon, déjà, il a fallu l'écrire, ça c'est toujours beaucoup de travail. Et en fait, quand j'ai fini de l'écrire, donc je l'ai fait relire à droite à gauche, je vais pas dire que les gens m'ont dit waouh, vas-y, t'as écrit un truc de ouf. Mais moi, j'étais, et je suis comme ça de manière générale, c'est-à-dire quand j'arrive à aller au bout d'un truc, etc., j'ai besoin de savoir ce que ça vaut. Donc, je me suis dit, la meilleure option, c'est de l'envoyer à des maisons d'édition. Donc, j'ai envoyé à 10 maisons d'édition. Je me suis pris pas mal de lettres de refus. Je crois que j'ai eu environ 7 ou 8 lettres de refus, dont une extrêmement violente en mode « Arrêtez, c'est mauvais !» Donc, voilà. Mais j'ai eu une réponse positive. Donc, c'était à l'époque les éditions Cédalion, qui n'existent plus aujourd'hui. C'était une toute petite maison d'édition. Et en fait, un jour, j'ai reçu un mail en mode « Il est pas mal, votre livre. Est-ce que ça vous dit qu'on le publie l'année prochaine ?» Et vu que c'était un mail, que c'était une toute petite maison d'édition, au début, j'ai cru un peu à une blague. Et en fait, au même moment, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage, par ma famille, un accès, on va dire, à Eric Orsena, qui est donc académicien et grand écrivain français, et il a lu mon manuscrit.
D'accord.
Et il m'a dit c'est génialissime, faut qu'on se rencontre, etc. Et du coup, on s'est rencontrés, et tout ça vraiment coïncide, c'est-à-dire que c'était au même moment que j'avais eu le retour de cette maison d'édition, etc. Donc j'étais complètement paumé, et en même temps je me disais mais attends, si un type comme ça te dit c'est bien, en fait est-ce qu'à un moment donné on peut pas juste se dire ouais c'est bien
et lâcher le truc.
Exactement, et éviter en fait d'avoir ce truc de syndrome de l'imposteur, etc. et du coup je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il m'a dit faut y aller en fait, là on vous tend la main, il me fait signer ce contrat et advienne que pourra quoi.
Mais du coup, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que justement, quand on écrit un roman, parce que c'est un domaine que moi, je ne connais pas et certainement les auditeurs non plus, est-ce qu'on a besoin forcément d'un mentor là, c'est ce qui s'est un peu passé. Est-ce que tu le considères comme un mentor, Eric Orsena, ou comment tu l'appréhendes ça? Et est-ce que c'est obligatoire?
Je ne dirais pas que c'est obligatoire dans le sens où c'est un peu comme tout projet et... au fond, dans la réalisation des choses, on est bien seul. Donc, après, être entouré, c'est bien. Mais bon, si on veut faire quelque chose, il faut y aller, il faut le faire. Après, ça dépend aussi de sa propre personnalité. Moi, je sais qu'Eric Orsena, à ce moment-là, il m'a clairement autorisé à être éventuellement doué. C'est quelque chose que... Parfois, je pense que les gens ont un peu du mal à en parler, mais et surtout dans la culture notamment française, peut-être, c'est assez mal vu en fait d'aimer ce qu'on fait, d'être fier de ce qu'on fait, etc. Enfin, on peut très vite être prétentieux, etc. Lui, il m'a donné l'opportunité à un moment donné de moi me dire ouais, en fait là j'ai une valeur, j'ai un truc, j'ai un bon projet. je vais y aller. Après, ouais, avoir ce genre de mentor ou ce genre de personne qui valide quelque chose, ça fait énormément de bien. Parce qu'en fait,
ça te met en confiance. Enfin, ça te.
C'est ça. Ça te met en confiance. Et puis surtout que pourquoi en fait ça aurait moins de valeur quelqu'un qui t'ouvre une porte que tous ceux qui vont qui vont te refermer les portes, tu vois. Donc c'est un peu dans cette logique là où à ce moment-là de ma vie, je me suis dit OK, prends-le le truc, tu vois, genre arrête d'être poli, arrête de penser que tu mérites pas ou je sais pas. Vas-y en fait.
Chouette. Et donc à partir de ce moment-là, tu continues à écrire? Tu écris tout. Enfin, aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que tu écris
Bah là, actuellement, je termine mon troisième roman, sachant que le deuxième roman que j'ai écrit, c'est un peu, mon roman Kleenex. J'y ai cru énormément, mais finalement, ça n'a pas abouti. En fait, ce qu'il faut savoir pour remonter un peu le cadre aussi, peut-être reprendre ça va être ton idée de mentor, c'est-à-dire que une fois que mon premier roman est sorti, ça m'a donné une super carte de visite finalement. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle rarement, mais finalement, quand on arrive à accomplir quelque chose, il faut s'en servir en fait, et il faut laisser venir en fait ce qui en découle aussi. Du coup, moi par exemple, j'ai été contactée par le magazine littéraire Malouin, l'hermine et la plume, qui a été écrit par Clément Talvas, et il travaille avec une personne qui s'appelle donc Anna Souillac, qui est aujourd'hui on va dire ma directrice d'ouvrage slash agent slash ange gardien slash mentor du coup, qui en fait m'a contactée en mode j'ai ouï dire que tu continues à écrire, parce qu'il y a aussi, faut dire les choses, parfois il y a des gens qui écrivent, mais en fait qui n'écrivent pas tout le temps. Moi j'écris tout le temps, j'ai jamais arrêté en fait, à partir du moment où j'ai commencé ce premier roman, je n'ai jamais arrêté. Et elle m'a dit, ouais, j'ai ouï dire que tu avais des petites choses dans le tiroir. Et du coup je lui ai envoyé ce second manuscrit, on a bossé ensemble dessus, on a touché du bout du doigt une grosse maison d'édition, et au final ça s'est pas fait parce qu'entre temps j'avais déclenché un autre projet de livre et on s'est dit que celui-là allait être meilleur, et donc celui-là je viens de le terminer.
D'accord. Et au-delà des romans, tu écris aussi des nouvelles du coup qui ont aussi été publiées, donc tu disais dans l'Herminia,
voilà.
Mais pas que, voilà. Et aussi sur d'autres canaux du coup.
Ouais, du coup, j'ai eu trois nouvelles, qui ont été publiées dans le magazine littéraire L'Hermine et la Plume, mais j'ai aussi un Patreon, ou un Patreon.
Ouais,
quand est-ce qu'on saura comment ça se prononce, on ne sait pas. J'ai un Patreon sur lequel je partage, en fait, tous les mois une nouvelle.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment mon terrain de jeu, mon terrain d'entraînement. C'est-à-dire que l'écriture de nouvelles me permet de... Je fais souvent le parallèle de l'écriture et du sport, mais voilà, quand tu écris un roman, tu es sur un gros marathon bien long, bien dur, celui qui pique fort les jambes. Je n'ai jamais couru de marathon, mais je l'imagine comme ça. Et les nouvelles, en fait, c'est tous ces petits 5 km, 10 km que tu vas faire une à deux fois par semaine et qui vont te permettre justement de faire ce gros marathon. Donc ouais, en fait tous les mois j'écris des petites choses que je partage. Et ça va de la nouvelle érotique à des fanfictions à des nouvelles beaucoup plus sérieuses. Je dis pas que les nouvelles érotiques ou les fanfictions c'est pas sérieux, mais tu vois l'idée.
Ouais, et donc tu t'éclates comme ça, mais je trouvais ça important, tu vois, qu'on en parle et qu'on se dise, c'est pas juste t'écris un roman de temps en temps quand t'as le temps, et puis après t'attends que ça se passe, quoi. C'est genre, en gros, au quotidien, enfin, tu passes ton temps à écrire, quoi. C'est un processus, tu vois, comme tu dis, comme un marathon, si on fait l'analogie avec le sport, et c'est un processus que tu as au quotidien, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition sur ce que je voulais te demander, justement ce fameux process d'écriture, tu vois, on n'imagine pas, enfin moi j'imagine pas le temps, si j'imagine, parce que justement les belles-sœurs et que je sais, moi je le vois, la face cachée de l'iceberg et encore je sais pas tout, mais le temps que ça prend, donc du coup c'était une de mes questions que je voulais te poser, c'est quoi concrètement ton process d'écriture?
Alors mon process d'écriture c'est... c'est ce truc un peu d'entraînement. J'essaye de constamment écrire. Après, alors, je n'écris pas tous les jours. Malheureusement, je n'ai pas ce luxe ultime, faute de temps, puisque du coup, je travaille la journée. Mais toutes les semaines, j'écris. Pas forcément un roman. C'est-à-dire que le process d'écriture, on imagine genre, voilà, j'écris, ensuite on relit, on corrige, c'est bon. On écrit, on relit, on corrige, c'est bon. Je crois que c'est Fred Vargas qui dit ça. Elle met, je crois, 3 semaines à écrire un roman. Et après, elle met 2 ans
ah
à
ouais.
le corriger.
Ah ouais, c'est dingue. Voilà.
Et en fait, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant avec le parallèle avec le sport au niveau de l'écriture, c'est vraiment cette notion d'endurance et d'entraînement. C'est-à-dire que si tu n'écris pas régulièrement, tu ne peux pas travailler ton style. Et si tu n'es pas prêt à passer énormément de temps sur un texte, il ne sera jamais abouti.
Ouais.
Par exemple, et ça, enfin, honnêtement, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, je l'ai écrit sans rien penser. J'y suis allée, j'ai écrit. Après, j'ai recorrigé, mais j'ai pas du tout analysé le processus. Ça a été très naturel entre guillemets, mais aussi du coup extrêmement dangereux. C'est pour ça que aujourd'hui, mon process d'écriture, c'est avant tout de la préparation. C'est-à-dire que je vais pas me dire tiens, je vais écrire un livre sur, je ne sais pas, les bananes. Et hop, j'y vais, j'écris un truc sur les bananes. Parce que du coup, au final, ça va ressembler à un documentaire où je vais énoncer des faits sur des bananes, tu vois. Non, il faut que du coup, les choses se transforment sous la forme d'un récit avec une structure. Et en fait, avant de commencer l'histoire de ton roman, il faut déjà savoir comment elle va se terminer.
D'accord.
Tu vas jamais entamer, enfin jamais. Je veux absolument pas donner de leçons à qui que ce soit ici, mais en tout cas pour moi, il faut pas trop commencer l'écriture d'un roman si on sait pas comment ça se termine. Ou alors, si on le fait, il y a un moment donné où tu vas te prendre un mur, dans le sens où tu sais pas où tu vas. C'est encore une fois une course à pied. Généralement, tu sais grosso modo où tu vas, ou du moins tu sais combien de kilomètres tu vas faire.
Tu vas courir, c'est ce que j'allais dire. Au moins, tu sais combien tu vas courir. Après, le chemin pour y arriver, du coup, tu vois, c'est ça que ça m'évoque. Quand tu dis qu'il faut connaître la fin, c'est-à-dire que tu connais la fin, mais par contre, comment tu vas y arriver, tu peux t'amuser dans le. Ouais, c'est ça.
Non, il vaut mieux quand même savoir.
Ah non, tu vas y arriver. Tu veux savoir aussi comment tu vas y arriver.
Évidemment, tout n'est pas. On ne peut pas être dans une théorie pure. Mais en tout cas, par exemple, le dernier roman là, que je viens de terminer, clairement, j'étais partie avec une idée d'abord. J'avais envie d'écrire sur un sujet. Je ne ferai aucun spoiler, non.
Ah, dommage, j'allais essayer de tirer l'image du nez.
Je ne dirai rien, parce que rien que de dire l'idée, j'en dirais, ce serait déjà trop. Mais j'avais envie d'écrire sur un sujet. Et du coup, je me souviens que j'en avais parlé à toi qui es à Saint-Malo, à Brice de la librairie L'Étagère, je lui ai dit j'aimerais trop écrire un roman sur ça. Il m'a dit ouais, c'est cool, qu'est-ce que tu vas raconter, ce sera quoi ton histoire? Et là je suis restée bloquée, genre c'est vrai que j'étais là je sais pas, je verrai, mais en fait non. Et du coup j'ai dû d'abord en premier lieu travailler sur une structure, donc c'est-à-dire que concrètement parlant, c'est un document Excel. J'ai une case chapitre et une case résumé du chapitre. Ouais. Chapitre 1, il se passe ça. Chapitre 2, il se passe ça. Chapitre 3, et ainsi de suite. Et en fait, tant que je n'ai pas quelque chose qui tient la route entre le début et la fin de comment j'y arrive, j'entame pas l'écriture du roman. Enfin,
c'est
en tout cas,
je ne m'étais jamais dit ça.
Si, alors, et du coup, ça peut sembler effrayant. Si on se dit, par exemple, demain, je vais écrire un roman et moi, je vais la jouer à la Zola ou à la Victor Hugo, ça va couler de source, machin. Non, en fait. Malheureusement, la préparation est, selon moi, hyper importante pour gagner du temps. Enfin, c'est pas tant gagner du temps, mais gagner du courage pour la relecture.
Ouais, tu sais où tu vas, quoi. En fait, tu sais où tu vas et où tu veux aboutir, parce que sinon, tu peux vite tourner en rond, peut-être, c'est ça le truc.
Bah, c'est surtout tourner en rond, mais c'est surtout à un moment donné, il faut que tu sois ton propre juge au moment des relectures. Et tu vois, quand tu écris un livre, c'est un peu comme si, enfin, dans un premier temps, quand tu fais ton premier jet, il vaut mieux y aller, tu vois, comme si tu dansais dans le noir dans ton salon. Tu vois, personne te voit. Tu fais ton truc, t'y vas. Il faut le faire. Tu vois. Ensuite, quand tu vas relire, là, c'est lumière allumée en direct sur Instagram que tu danses dans ton salon. En fait, c'est-à-dire que là, t'as plus le droit en fait de faire n'importe quoi. T'as plus le droit à l'erreur. Faut que ce soit cool. Faut que ça rende bien. Faut que ce soit cohérent. Faut que ce soit joli. Et du coup, c'est là où les relectures, et j'insiste sur les relectures, sont importantes. Là, pour mon dernier roman, je pense que j'ai atteint les 10 relectures.
J'allais te demander concrètement. Ouais, j'allais demander concrètement si tu peux donner des chiffres. Déjà, ça prend combien de temps tout ce qu'on se dit là, entre ton petit Excel que tu commences et où finalement tu n'as pas écrit, le moment où tu commences à relire, et après le nombre de, tu vois, des chiffres concrètement pour qu'on se rende compte. Combien de temps ça prend?
Entre le moment où j'ai l'idée, donc c'est-à-dire que l'idée, c'est le petit truc qui vient te frapper la tête, genre ding, écrire un livre là-dessus. Et le moment où tu le termines pour de bon, je pense qu'il faut, il faut compter en moyenne 4 ans.
D'accord.
Après, encore une fois...
Oui, vas-y.
Ouais, et puis encore une fois, je travaille. Enfin, j'ai un job alimentaire.
Ouais, on en parlera à côté, parce que c'est hyper intéressant aussi de comprendre ça dans ton, dans ton processus global de vie, on va dire.
Voilà. Et aussi, je pense qu'on vit à une époque où on te fait beaucoup croire que les projets, ça se fait en 30 secondes chrono, que le succès s'atteint en 5 minutes. Donc, non, c'est assez long. Le bouquin que je viens de terminer, j'ai commencé à l'écrire en août 2019. Là, il est en relecture. Là, actuellement, il est en relecture finale auprès de mon agent / directrice d'ouvrage /
mentor / voilà. On n'en dira pas plus. Ça fait donc 3 ans. Finalement, août 2022, on sera à 3 ans.
Voilà. En gros, ce sera 3 ans, tu vois, de travail. Mais encore une fois, c'est pas tous les jours. C'est parce que si vous voulez encore des parallèles, un roman, c'est aussi comme une pâte à crêpes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser poser. Et ça, c'est parfois le plus difficile dans le sens où si quand tu fais par exemple ton premier jet de roman, si tu commences à le relire immédiatement, c'est un peu trop tôt. Il faut laisser un petit peu poser, il faut prendre du recul, il faut un peu oublier tes personnages, oublier ta vision. Comme ça, quand tu reviens dessus, tu as un œil neuf. Et c'est un peu, il faut un peu faire ça entre chaque relecture.
Ouais, moi, je ne saurais pas. Du coup, je ne pourrais pas être écrivaine. Parce que moi, la pâte à crêpes, par exemple, je la laisse pas reposer. Parce que je me dis, ah non, c'est bon, allez, on enchaîne, on n'a pas le temps, tu vois. Je ne pourrais pas.
Bah, je te rejoins dans cette équipe-là. Et tu vois, en termes d'écriture, j'ai dû apprendre à laisser
attendre. Ouais. Et tu fais genre, tu vois, j'ai déjà entendu genre des fiches sur les personnages et tout. Chaque personnage a une fiche, limite un mini-roman à l'intérieur, enfin dans tes prépas sur les personnages et tout. Ça, c'est pas vrai.
J'ai des fiches, en fait, non, mais pareil, c'est quelque chose. Quand j'ai démarré, en fait, j'ai tellement rejeté un petit peu la théorie parce que j'avais envie de croire à ce truc merveilleux qu'on nous fait croire depuis la nuit des temps, que le génie et le talent.
J'aime bien ça, là. Alors, attends, tout est filmé. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront, tout est filmé. On ne mettra pas tout en vidéo. Mais là, Manon, pendant qu'on parle, elle nous fait comme des petites gouttes, qui tombent du ciel. Et c'est le génie de Victor Hugo, c'est ça? Tout à l'heure, tu citais.
Voilà, c'est ça. Voilà,
c'est des petites doigts qui glissent du haut du ciel vers le bas. Vous ne voyez pas, mais
je peux traduire mon geste. Tout ne coule pas de source.
Voilà, ça ne coule pas comme ça. Mais en fait, on ne sait pas comment ils faisaient à l'époque aussi pour écrire leur roman, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est dans les... Ouais, peut-être qu'ils bossaient, ils travachaient comme des fous. Et on ne le sait pas, en fait.
Comme des fous. Et sauf qu'eux, à l'époque, ils avaient la chance de ne pas avoir, besoin d'entretenir leur compte Instagram en parallèle.
C'est ce que j'allais dire.
Ou de gagner beaucoup d'argent pour se payer un iPhone, quoi.
Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure. J'ai pas rebondi, mais sur le côté, on nous fait croire que quoi. Enfin, tu vois, enfin, ça va quoi.
Ouais,
et là, ça, c'est... tout se fait pas en 2 secondes, et c'est du temps, et c'est du boulot, et c'est de la persévérance, et de la motivation. Et tu vois, d'ailleurs, je me dis là, quand tu me dis tout ça, comment t'arrives à garder cette motivation quoi? Comment? Parce que là, on s'est dit tout le process pour écrire, mais une fois que c'est écrit, on envoie ça à, je sais pas, 10-15 maisons d'édition. Donc, déjà, faut imprimer ton manuscrit, machin et tout. Tu essuies 15 000 refus, j'imagine. Bah, bien sûr, il y a des réponses positives, mais comment garder la motivation à un moment donné, quoi ? Comment tu fais ?
C'est... Je sais pas, je pense que il y a un côté à un moment donné où j'ai décidé en fait de faire ça. J'ai organisé ma vie autour de ça et du coup j'ai pas le choix. Moi c'est ce que je me dis, j'ai pas le choix et en même temps j'ai toute ma vie pour y arriver. Alors y arriver est un très grand mot. Hein. Je ne parle pas de vendre des millions d'exemplaires et d'être extrêmement riche, etc. Mais je me dis que voilà, c'est mon passe-temps. C'est un très très gros passe-temps qui prend beaucoup de place dans ma vie. C'est ce que je suis, c'est ce que j'aime faire. Et du coup, bah, tant que j'ai encore l'énergie, tant que j'ai tout ce qu'il faut, je continue. Et je pense que c'est un peu le cas pour à partir du moment où tu as un projet, peu importe que ce soit écrire un bouquin, monter une boîte. Peu importe ce que c'est finalement, tant que t'en as vraiment l'envie et que tu sens au fond de toi que c'est ce qui t'habite et c'est ce dont tu es sûr, finalement ça te nourrit énormément aussi, tu vois. C'est à dire que ok, t'essuies des refus,
c'est long
et puis tu te prends des lettres de refus, des machins, enfin tu vois, t'as des fausses joies, t'as des ah ouais peut-être, et puis en fait non, t'as des enfin je me souviendrai pour mon deuxième manuscrit quand donc j'ai vraiment touché du doigt un super contrat et c'était pile en plus quand j'emménageais à Amsterdam, c'est-à-dire j'étais sur la route, je dormais sur l'île une nuit pour faire la route jusqu'à Amsterdam pour emménager là-bas. Et je reçois un coup de fil de l'éditeur avec qui j'étais en contact. Et il commence la conversation par « Bon, écoute Manon, il faut que je te parle. » Et c'était juste pour me dire « En fait, ça ne va pas le faire parce qu'en fait, on a peur. Parce qu'en fait, tu n'es pas connu. On n'a aucune garantie que ça marche. Enfin, tu vois, c'est t'as un truc, mais là, on ne le sent pas. » Et tu vois, c'est affreux. Enfin, je me souviens que j'ai été dans un désarroi, mais pas possible. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, tu vois. Et je pense que tout porteur de projet, toute personne qui se donne vraiment à fond et qui veut atteindre son objectif, tout le monde passe par là. Par des moments de doute affreux, des moments où tu as l'impression que finalement, tu n'y arriveras jamais. Et puis, en fait, tu dors une bonne nuit. Puis le lendemain matin, tu te dis, bon, ben, c'est reparti, on recommence.
Et comment tu arrives à te détacher de... Tu vois, de ne pas le prendre pour toi, tu vois, c'est con, mais comment se dire, ok...
je le prends grave pour moi. Hein. Non, mais t'inquiète. Bah, franchement, faut... Enfin, tu vois,
non, mais toi, tu dis, tu dors un bon coup et hop, tu persévères, quoi. Enfin, moi, ta force... Enfin, c'est une force et une persévérance que j'admire et qui m'impressionne, parce que, tu vois, de ne pas se dire, de ne pas lâcher prise et de se dire, ok, pas de prendre... Moi, je trouve que, pour le coup, si tu persévères, c'est quelque part... tu arrives à te détacher et que tu ne prends pas personnellement. Tu vas te remettre en cause ou tu vas t'améliorer, tu vas retravailler, mais tu ne te dis pas « j'arrête, c'est un vrai. »
Alors après, j'avoue, j'ai mes lecteurs. Et ça, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que, tu vois, l'avantage du coup des réseaux sociaux, c'est que du coup, je peux partager aussi ce genre de choses avec ma communauté. Et je vais leur dire, tu vois, genre « ouin ouin, j'ai un gros coup de mou ». Et là, tu reçois...
un coup de boost, un coup de love.
Ouais, tu reçois mais même 2-3 messages, tu vois. J'ai pas une avalanche de centaines de messages, gens qui me disent « you go girl », tu vois. Mais j'ai juste 2-3 messages de gens qui vont me dire « hey, toi, ton bouquin, il m'a changé la vie, donc t'arrêtes pas. » Et je fais « ok, en fait, tu vois, toi, personne que je ne connais pas sur Internet, machin, tu me dis ça, ça a autant de valeur que le mec d'une maison d'édition qui va me dire « non, mais c'est mort, on veut pas de toi ». C'est pourquoi l'un pèserait plus lourd que l'autre finalement, et aussi c'est des petites astuces mentales à mettre en place, tu vois. C'est-à-dire que prends ce que tu peux de courage qu'on te donne, et puis après aussi il faut vraiment et sincèrement aimer ce que tu fais pour pouvoir recommencer.
C'est ce que j'entends dans ce que tu dis quand on parlait de persévérance et de motivation. J'avais envie de te dire en t'écoutant, bah au final, j'ai pas l'impression que ça soit tu te forces pas, quoi. En fait, c'est une passion.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, il y a aussi ce. Alors c'est pour ça que j'essaye toujours de commencer l'écriture d'un roman pendant que je suis en train terminer un roman. Et chose que je n'ai pas fait là, j'avoue. Là, je termine un roman et je n'ai pas entamé d'autres livres en parallèle, mais j'ai des idées. J'ai des projets aussi qui sont en stand-by. Enfin, j'ai toujours des petites choses, tu vois, mais là, c'est la première fois que je vais me retrouver un petit peu en roue libre depuis, depuis plusieurs années.
Ça te fait peur ?
Non, au contraire, ça me soulage un petit peu.
Ouais, ça fait du bien.
Parce que là, le troisième, j'ai tellement donné, j'ai tellement appris que du coup, là, j'ai besoin de rassembler tout ce que j'ai appris pour pouvoir aborder une nouvelle approche. Justement, sur tout ce que je te viens de te dire en process d'écriture, tu vois, je viens de te dire tout ça, mais finalement, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bah, là, je vais essayer de faire ce que j'ai dit.
D'accord. Ok, donc c'est quoi aujourd'hui tes objectifs finalement ? Alors, à aujourd'hui, voilà, maintenant que ce troisième roman est écrit, c'est quoi l'objectif ?
L'objectif, c'est qu'il sorte, ce livre-là, parce que du coup, j'en suis contente. Je le trouve fou, incroyable, il veut dire énormément de choses pour moi. Donc ça, il va sortir, il faut qu'il sorte. Maison d'édition, il faut qu'il sorte. On ne sait jamais si on m'écoute.
Ouais, c'est ça, on ne sait jamais.
Donc ça c'est sûr, c'est mon objectif en fait pour le moment. Et après les objectifs long terme en fait c'est juste à un moment donné de réussir à vivre très sobrement de l'écriture. Je veux dire 98% des auteurs et des autrices en France ne vivent pas de leur plume pour la simple et bonne raison que qu'on gagne pas beaucoup d'argent sur la vente d'un livre. Donc c'est sûr, quand on vend des millions d'exemplaires, ça peut donner des millions d'euros, mais quand on vend des centaines d'exemplaires, ça donne des centaines d'euros. Et on est plus proche, enfin, il est plus facile de vendre des centaines d'exemplaires par-ci par-là, des milliers d'exemplaires par-ci par-là, que d'avoir que d'être en tête de gondole à la FNAC tout le temps. Et c'est tout à fait normal et ok. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est en fait à un moment donné de pouvoir sortir mes romans, trouver un moyen de vivre comme ça, et de pouvoir du coup me consacrer plus à cette passion, à ce métier qui m'habite depuis quelque temps.
Tu ne cherches pas le succès phénoménal d'en vendre des millions, enfin,
non. Voilà. Non, et sincèrement, enfin, si demain on me disait tu vas vendre des millions de livres, je sais même pas en fait si j'arriverais à me dire ouais, trop cool. Je dirais juste non, mais en fait, moi je veux juste en fait avoir de quoi payer mes factures d'eau, d'électricité, de loyer et juste pouvoir écrire sans avoir à faire un travail en parallèle qui m'épanouit pas de dingue. Ouais. C'est plutôt ça.
Et d'avoir le temps, du coup, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu as décidé, finalement, il y a quelques années, de devenir vraiment écrivain, enfin, de l'être, enfin, c'est même pas décidé, en fait. Je pense pas qu'on décide d'être écrivain. Il y a un moment,
j'ai décidé de m'y consacrer.
Comment ?
Ouais. J'ai décidé de m'y consacrer, quoi.
Tu as décidé de t'y consacrer. Et comment on s'organise concrètement et comment on mange à la fin du mois quand on est écrivain, finalement ?
Alors, j'ai fait une école de commerce. Après mes études, j'ai travaillé environ 8 ans dans le marketing. Donc, c'était des jobs très, très prenants qui prennent énormément d'espace mental, qui prennent beaucoup d'énergie créative, etc. Et à un moment donné, je me suis mise aussi à un moment donné à mon compte, me disant en étant à mon compte, je peux dégager du temps comme je veux pour écrire. Mais encore une fois, c'était beaucoup, beaucoup d'énergie en parallèle pour faire... Pour pouvoir maintenir mon activité, etc. Donc, je me suis dit, en fait, ce qu'il me faut, c'est un job où je peux ne pas trop réfléchir. J'ai un salaire qui tombe tous les mois, je fais mon travail bien comme il faut, mais je garde toute ma créativité, tout mon espace mental que pour moi, que pour mes romans. Et du coup, quand je suis arrivée à Amsterdam, j'ai d'abord été promeneuse de chiens. Donc ça, c'était super parce que clairement, passer toute la journée avec des chiens, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus merveilleux en termes de bonheur et ça te prend pas la tête, un chien, tu vois. C'est pas un collègue affreux qui va te pourrir l'existence. Mais bon, malheureusement, c'était impossible d'en faire un revenu digne de ce nom. C'est pas bien payé, tout simplement. Et après, en fait, j'ai opté pour un job dans un service client d'une entreprise. Et au début, ça devait durer 2 mois. Ça fait 2 ans et demi que j'y suis. Mais en fait, je travaille en 4/5e. Donc, je travaille 4 jours par semaine. J'ai une journée donc, que je peux dédier entièrement à tous mes projets. Et en parallèle, je fais un 9h-17h extrêmement strict. C'est-à-dire qu'à 17h, c'est fini, je ne travaille plus. Donc, j'ai encore mes soirées, mes week-ends. J'ai du temps, en fait, et surtout de l'espace dans ma tête. J'ai ma créativité qui est vraiment que pour moi. Et voilà. Donc, c'est un choix parce que bah, forcément, notamment les services clients, c'est souvent les portes d'entrée des entreprises. Donc, c'est tout petit salaire, hein, pour parler franchement. Mais... voilà, moi je suis heureuse comme ça, j'ai pas besoin de beaucoup, je me dépatouille. Et puis surtout, j'ai aussi un bon rappel chaque matin où je commence ma journée de travail. Je me dis, ok, ça devait durer 2 mois, puis 2 ans et demi, bah, promets-toi que dans un an, tu n'y es plus et que dans un an, les choses ont bougé pour toi.
En tout cas, aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre. Pour te garder ce temps, cet espace mental et d'avoir une journée par semaine où tu peux vraiment te consacrer en plus de soirée, c'est génial, quelque part.
Voilà.
Sans se mettre en difficulté et t'es bien, t'es équilibré, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. C'est exactement ça, c'est cette notion d'équilibre, en fait, qu'il faut trouver et de volonté, du coup, sur ce qu'on veut vraiment faire dans la vie ou pas. Et il y a des personnes qui vont vouloir une carrière... dans un travail salarié dans une entreprise, il y en a d'autres qui vont vouloir plus de sobriété et je sais pas, avoir un job plus calme entre guillemets, il y en a qui vont vouloir travailler à temps plein, d'autres à mi-temps, etc. C'est vraiment des choix pour un équilibre de vie qui satisfait, et moi j'étais pas forcément prédestinée à ça puisque voilà, je travaillais dans le marketing, c'était à fond, c'était
la carrière, quoi, quelque part.
Ouais, la carrière, il fallait évoluer, il fallait bouger, il fallait machin, il fallait prouver tout le temps. Et ben non, en fait, maintenant, je suis avec... Et ce qui est marrant, c'est finalement dans mon équipe avec laquelle je travaille, par exemple, j'ai un collègue, il est exactement comme moi. C'est pareil, c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'il a plein de choses à partager, il a plein de choses à faire, etc. Mais il a choisi d'avoir quelque chose à côté dans sa vie qui lui permette de payer son loyer, mais... voilà, c'est pas rare, c'est pas honteux, et c'est juste des choix
et assumer et vivre, enfin voilà, du coup bien vécu, quoi.
Ouais, tout à fait.
Ok, bon, je pense qu'on a on a carrément super bien balayé le process d'écriture, et maintenant je voudrais aborder des questions un peu plus personnelles, on va dire.
Ok.
Je voulais savoir si dans la vie tu as d'autres combats. Est-ce que tu as, enfin d'autres, déjà si c'en est un, mais est-ce que tu as des combats, des choses qui tiennent à cœur pour lesquelles tu te bats?
Ouais, bah en fait c'est un peu, tu vois, tout ça, tous ces choix de vie, etc. Tu vois, d'avoir un job alimentaire, de travailler l'écriture en parallèle, ces histoires de persévérance, tu vois, de patience aussi, de faire le choix de bah, que les choses viennent pas comme ça en un claquement de doigts. Aujourd'hui, je sais qu'un de mes combats, c'est d'accepter ça à 100%. Parce que là, tu vois, je te raconte mon histoire, je te raconte tout ça, mais bien sûr, et des matins, je me réveille, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ce que je devrais être en train de construire à un moment donné, tu vois? Est-ce que finalement, cette carrière dans le marketing, est-ce que, en fait, voilà, est-ce que c'est normal à mon âge, par exemple, de gagner pas beaucoup d'argent? Est-ce que c'est normal? Tu vois, il y a plein de choses. Et du coup, ça, c'est mon combat envers moi-même. C'est-à-dire que essayer d'accepter ma situation pleinement et aussi d'accepter la personne que je suis à 200% par rapport à tout ça.
Faire fi des injonctions aussi, on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est de se dire qui dit que à 30 ans tu dois être
enfin, tu vois, qui... exactement,
finalement c'est un combat aussi contre les injonctions au-delà de toi-même, je pense, enfin...
Tout à fait, ouais, mais tu sais, les injonctions, les croyances qu'on a, elles sont puissantes, tu vois. On a souvent aussi, tu vois, ce genre de discours, genre en mode « Non, mais les croyances limitantes, franchement, comme ça, tu te les enlèves. Non, mais les injonctions de la société, on s'en fout. » Bah non, quand on grandit dans un truc comme ça, à un moment donné, c'est difficile, tu vois, et on est vite rattrapé par nos démons. Et je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, il n'y a aucun problème à dire les choses concrètement. J'ai toujours prôné, tu vois, l'authenticité. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie, d'être authentique. Et moi, je suis... Alors, je ne vais pas dire que je suis particulièrement authentique, parce que je trouve ça affreux, finalement, formulé comme ça, mais je suis toujours la personne, tu vois, qui va dire ce qu'elle ressent. Pas forcément ce qu'elle pense, attention, c'est différent. Mais je vais toujours dire à peu près ce que je ressens. Et parfois, ça peut paraître pour une sorte de drôle de vulnérabilité bizarre, genre en mode, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle dit comme truc qui, on n'est peut-être pas censé dire. Et j'ai voulu à un moment donné combattre ça aussi. Et en fait, je me dis non. Je me dis, accepte la personne que tu es. Si tu as envie de dire quelque chose, dis-le. Et si on t'aime pas après ça, ou si on t'aime après ça, bah en fait, tu t'en fous. Peu importe le truc.
Ouais, c'est pas grave.
Voilà.
Bon, mais...
non, mais tu vois, encore une fois, ce truc de... Parfois, je dis ce que je ressens. Et voilà. Non, mais c'est... Je pense que c'est un vrai combat que peut-être d'autres personnes partagent ou pas. S'il vous plaît, partagez-le. Mais... Non, mais tu vois, de ce truc de se dire on peut pas faire semblant tout le temps et même si les histoires qu'on raconte sur soi, qu'on raconte sa vie, etc. semblent belles et cohérentes, faut bien se dire qu'au fond, on a tous un certain chaos qu'on essaie de gérer. Et moi, du coup, mon combat aujourd'hui, c'est d'accepter ce chaos.
Et d'oser et de comment dire, de l'assumer quelque part. Parce que montrer sa vulnérabilité, c'est de l'assumer, mais aussi le verbaliser, et donc l'assumer auprès des autres, en fait, encore une fois.
C'est... Exactement, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'assumer auprès des gens qui nous entourent, peu importe les réactions, en fait. Parce que c'est ça aussi, on est extrêmement conditionné par le regard des autres.
Et tu crois que ça a un impact, d'ailleurs, sur les gens? Qu'est-ce qui se passe concrètement? T'as des exemples concrets où t'as pu dire à un moment... exprimer tes émotions, ou ce que tu ressens, et que c'est un impact sur une personne.
Ouais.
Ouais.
Bah, depuis quelques temps, en fait, j'essaie de le pratiquer, ça, de dire un peu... parce que je sais aussi comment je fonctionne, au fond, et parfois, je trouve que quand on n'est pas assez honnête avec les gens qui nous entourent, avec les gens avec qui on travaille, avec les gens avec qui on partage des choses, etc., finalement, rien ne se décoince jamais. Ouais. Du coup, on reste dans un chemin très, très droit. Et j'ai remarqué que pour certaines fois où j'ai dit « Ouais, en fait, là, je ne suis plus très à l'aise. Est-ce qu'on peut modifier ça ou ça ?» Et bien, finalement, les gens entendent ça et ça les fait bouger aussi. Et du coup, ça prend d'autres directions.
Ouais.
Désolée, j'aurais aimé avoir un exemple finalement beaucoup plus
concret que ça. Non, mais il n'y a pas. Mais au moins, c'est que... Ouais. Que j'avais peur, tu vois, que ça fasse l'effet inverse où les gens peuvent se dire attends, qu'est-ce qui se passe? Oula, elle nous... Non, au contraire, ça peut débloquer des situations, quoi.
Ça peut débloquer des choses. Après, ça peut aussi surprendre et ça peut, ça peut, mais dans tous les cas, en fait, ça débloque quelque chose puisque c'est quelque chose que tu ressens. Donc, si tu le verbalises correctement à la personne au bon moment, logiquement, ça doit te faire du bien à toi,
mais est-ce que j'ai
finalement du bien à l'autre aussi, voilà. Et à la. Mais le but, c'est d'être droit dans ses bottes, on va dire.
La fameuse congruence, mon fameux terme préféré chouchou. J'en ferai un autre épisode, je pense. On va pas parler de la congruence aujourd'hui, mais c'est clairement oui. Ça. Ça me parle à 1000%. Est-ce que tu aurais des conseils aux auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient se lancer, qui ont aussi un projet, soit un projet d'écriture, soit qui veulent se lancer, qui disent « j'ai une idée », ou alors qui ont commencé, qui ne savent pas comment, tu vois, qui ont mis de côté?
Si, genre, vous avez envie d'écrire... écrivez en fait juste après l'écoute de ce podcast, mettez genre 5 minutes de timer sur votre téléphone, ouvrez une note sur votre iPhone et écrivez un truc, n'importe quoi, et relisez-le ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas il faut écrire si on en a envie, et que ce soit pour soi ou pour raconter une histoire ou quoi que ce soit. Le principe même d'écrire, en fait, peut vite être oublié, et alors que ça fait du bien, d'une part, et ça peut lancer quelque chose. Du coup, je reprends un peu en exemple mon premier roman, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Envie pressante d'écrire, et pouf, 168 pages plus tard, il y avait un truc qui s'était produit. Après, si vous souhaitez vraiment et donc écrire un roman, etc., pensez à cette notion de préparation. Et encore une fois, voilà, à savoir où vous allez, à travailler votre structure, vos personnages, les objectifs de vos personnages. C'est vraiment hyper important dans un premier temps. Et pour ça, je peux vous recommander le livre de... Alors attends, je regarde parce que je l'ai juste devant moi. Il est tout le temps là. C'est Yves Lavandier, La dramaturgie.
Je mettrai les notes dans l'épisode.
Ouais, donc Yves Lavandier, La dramaturgie. Donc c'est un gros, gros livre. Qui apprend un peu à faire, qui raconte en fait, qui explique c'est quoi l'art du récit. Mmh. C'est surtout axé sur les films, mais en fait, n'importe quelle histoire, que ce soit au cinéma ou dans un livre, c'est une histoire. Mmh. Et donc, il y a énormément de choses très, très intéressantes là-dedans. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Donc, voilà, n'ayez pas peur de la théorie et mettez un petit peu les mains dedans et ça vous permettra de gagner du temps. Et d'éviter de se prendre le mur qui arrivera d'une façon ou d'une autre si on ne se prépare pas assez.
Et ça, il faut se le dire d'ailleurs, il y aura des murs. Enfin, ce conseil ultime, c'est pas...
C'est ça.
Ouais, ça va être un parcours semé d'embûches et il faut être persévérant, quoi.
Voilà, exactement, ouais. Après, le seul truc, c'est qu'en fait, plus on se prépare, plus les murs sont pas trop hauts, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais bon, ayez du temps devant vous, quoi, si vous voulez écrire un... On se l'est dit,
ouais.
Le temps, voilà, enfin, ça se fait pas en 2 minutes, quoi. On n'écrit pas un roman en 2 semaines.
Non.
C'est un peu le message.
Enfin, si, justement, en fait, on peut écrire un roman en 2 semaines, mais on le termine en 2 ans après. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire que... ouais, ça demande du temps, mais en fait, tout demande du temps. Et ça vraiment, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que, je sais pas, demain, tu décides de monter... ta boîte de conseils en marketing, tu vas pas réussir à avoir une boîte qui tourne en 2 semaines, tu vois.
Non, mais
tu n'auras même pas eu le temps de faire tes démarches administratives. Ouais. Si tu veux avoir un potager dans ton jardin, même chose, tu vois, il faudra du temps, etc. Donc, tout demande du temps. Et ça, vraiment, j'en veux finalement, parfois aux réseaux sociaux par rapport à ça, où on nous fait croire que pouf, un roman, ça s'écrit comme ça, pouf, un livre, ça se fait comme ça, pouf, un film, ça se fait comme ça. Non, ça demande du temps.
Et au-delà, les créations d'entreprises, moi, je vais pousser mon coup de gueule sur LinkedIn, par exemple, qui me touche plus particulièrement sur comment créer ce nombre de posts qu'on voit surgir qui sont comment créer ton business en un mois, comment atteindre, je suis passée de 30 clients à 2000 clients en un mois, non, bullshit les gars, enfin non, je suis passée, comment faire 1 million d'euros en un mois, non, la vie c'est pas ça, enfin moi-même chef d'entreprise et enfin, je me suis lancée il y a 4 ans maintenant, c'est pas ça la vie quoi les gars, enfin, tu vois, même dans d'autres domaines, et moi aussi j'en veux, tu vois, c'est un autre réseau social pour le coup, on n'est pas sur Instagram, mais pareil quoi, qui vendent de la poudre aux yeux aux gens et c'est pas la vie.
C'est ça, et c'est pareil pour les perdre 10 kilos en 3 mois.
Ouais,
enfin, tu vois, c'est normal, on est humain, on aimerait voir des résultats immédiats, mais non. Et en même temps, si on voyait des résultats immédiats, mais qu'est-ce qu'on foutrait pendant 80-90 ans de notre existence, quoi. On n'arrêterait pas. Donc, prenons le temps de savourer les choses, savourer le process, etc. Je sais que à chaque fois que je finis de l'écriture d'un roman, après, j'ai toujours une micro-dépression qui s'installe. Parce que c'est affreux, quoi. C'est tu dis au revoir à la fin d'une époque, d'une étape, machin. Alors qu'au final, ce que tu veux, c'est de sortir le livre, tu vois, qu'il soit lu, ouais, etc.
Mais c'est vrai que ça
quand
paraît.
Tu le termines, c'est dur. Ouais. Donc, faut toujours profiter des... ces moments durs, affreux, qui ne payent pas, on se sent seul, etc. Mais... c'est ça le meilleur. Enfin, pas trop longtemps.
Pas trop longtemps quand même. Hein.
Voilà, on est d'accord.
Bon, ma dernière question un peu genre personnelle, c'est un peu la question signature du podcast. C'est quoi pour toi être décomplexé?
Bah, j'ai envie de te dire spontanément être à poil. Du coup. Ouais.
Ah oui, effectivement, hyper décomplexé. Donc c'est pas à poil, voilà. Même s'il y a des gens qui te voient par la fenêtre, c'est ça?
Non. Du coup, on va aller sur un sens un peu plus figuré. Mais tu vois, encore une fois, je reviens sur cette idée d'authenticité dont je te parlais. C'est-à-dire que être décomplexé, pour moi, c'est assumer la personne que tu es, assumer ce que tu veux faire, assumer ce que tu fais. Et ne pas avoir peur, en fait. Tu vois, par exemple, sur mon Patreon, donc la première nouvelle que j'ai partagée sur mon Patreon, c'était une nouvelle érotique. Puisque ça faisait environ un an que j'écrivais un peu de nouvelles érotiques et j'en avais mais terriblement honte. Bah, tu te souviens d'ailleurs, tu avais été l'une des premières personnes à les lire. Et du coup, je sais pas, je me disais, oh là là, mais ça veut dire des choses sur moi, je comprends pas, pourquoi est-ce que je vais écrire ça? Mais en fait, c'est juste que je voulais m'amuser. Je voulais voir en fait c'était quoi le pouvoir de l'écriture. Parce que j'avais lu aussi par exemple les nouvelles de Anaïs Nin qui sont c'est YouPorn sur papier et du coup je me disais c'est incroyable de pouvoir faire passer autant d'émotions, de sensations par l'écrit et du coup je me suis dit vas-y fais ça et donc ça fait partie de mes 5 km, 10 km d'entraînement pour pouvoir faire derrière des marathons et en fait quand je l'ai posté sur mon Patreon alors, j'avais peur. Je me disais, les gens vont se dire...
Que
j'ai l'esprit mal placé, machin. Ma mère est abonnée à mon Patreon, quand même. Et ben non, en fait, j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit, putain, c'est marrant, c'est bien, c'est super bien écrit, oh là là, ça fait avoir des idées. Enfin, tu vois, c'était... En fait, je pensais être toute seule dans une pièce à avoir envie de faire des trucs, machin. Mais en fait, non, il y avait plein de gens qui étaient là, genre, ouais, c'est cool, en fait, c'est rigolo de lire du cul, voilà.
Et ça touche les gens et ça les incite, enfin, voilà, ça touche les gens, quoi. Il n'y a pas à se mettre de barrière, quoi.
Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça, c'est ça pour moi, être décomplexé, c'est faire comme on le sent, faire ce qu'on veut vraiment, soit au fond, cette petite voix qui nous parle parfois et qui nous dit « fais ci » ou « fais pas ça » aussi. Et malheureusement, parfois, on ne l'écoute pas assez.
Note pour nous-mêmes. Écoutons notre petite
voix.
Bon, bah super, merci Manon. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre maintenant? Si on veut te suivre, t'écrire à la suite de tout ça et qu'on a des questions à te poser ou qu'on a envie de te suivre juste pour le plaisir, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, principalement sur Instagram, donc avec mon @ Manon Lecor, donc Manon comme le prénom, Lecor, Lecor. Donc là, vous pouvez m'écrire, m'envoyer des DM ou me suivre ou tout ce que vous voulez. J'ai aussi mon blog, manonlecor.com, donc même orthographe, Manon comme le prénom, Lecor.com. Et j'ai aussi donc mon Patreon. Et là, pour y arriver, c'est Patreon, donc patreon.com/ Manon Lecor, Lecor. Donc voilà, vous pouvez me retrouver ici.
Et là. D'ailleurs, et pour les fans de photographie, tu as aussi ton compte.
Les fans de photo, ceux qui, ouais, si vous aimez un peu la photo. Ouais. Alors, du coup, là, pour le coup, je parle vraiment pas d'écriture et tout sur ce compte-là, mais ça, c'est vraiment mon petit plaisir sur le côté, la photo. Donc, sur Argentic Gal, donc Argentic comme la photo argentique, et à la fin, G-A-L. Okay. Comme, voilà, en anglais.
Donc ça c'est pour te suivre, t'écrire ou te poser des questions, te faire juste un petit coucou si on a envie parce qu'on a trouvé l'interview sympa. Est-ce que encore où est-ce qu'on peut se procurer ton roman Quand s'en ira la perle, donc le premier, celui qui a été édité?
Ouais, alors le premier il a été victime de son succès. Il a été publié en fait à 800 exemplaires. Les 800 exemplaires sont partis, donc maintenant il est uniquement disponible en fait sur Amazon au format Kindle. Et si vous voulez lire les 3 ou 6 premiers chapitres, je ne sais plus, vous pouvez venir sur mon Patreon. Il est en libre service. Le début est en libre service. Si vous voulez voir un peu ce que ça donne.
Mais on peut l'acheter en format Kindle sur Amazon.
Voilà, tout à fait, pour 5,89€, je crois.
Ouais, je pense que vous avez tous foncé. Alors, juste parce que forcément, évidemment, donc vous le savez maintenant, c'est biaisé, je suis sa belle-sœur, mais une fluidité de lecture, les amis, un plaisir à lire son livre, c'est du bonheur à l'état pur. On le lit, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Donc, si vous avez des conjoints, des conjointes, sachez que vous allez avoir deux soirées, je pense, où vous allez vouloir dévorer le livre. Vous n'allez pas vous arrêter. C'est un livre. Et d'ailleurs, tout le monde, tu vois, dans les commentaires, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est le livre, il est hyper fluide. Bon, tu ne veux pas en parler parce que c'est biaisé, mais moi, j'en parle. Hyper
Merci,
fluide. On a juste envie de le dévorer et on ne peut pas s'arrêter. Et on a envie de savoir la fin. Et tu vois, c'est un peu comme toi avec ton Excel. Bah, nous, on a envie de savoir la fin en commençant le début. Et on ne s'arrête pas de le lire. Donc, foncez l'acheter même au format Kindle.
Merci, c'est trop cool. Et d'ailleurs, juste si vous tenez absolument au papier, parfois il est sur Vinted.
Ah, bah bonne option, ouais. C'est clair. Ou alors je revends mon exemplaire, mais ça sera une certaine somme.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, du coup, le tien est dédicacé, je crois. Dédicacé
en plus, donc tu vois, c'est le format. Non, c'est mort, je le garde. Bon, bah écoute, Manon, il me reste juste à te remercier. Merci infiniment pour ton temps, ta générosité, tout ce que tu nous as livré, tes conseils.
Ben, merci à toi. Franchement, c'est trop bien de pouvoir parler de tout ça. C'est pas souvent que je prends la parole sur ces sujets. Donc, merci infiniment de m'avoir reçu sur ton podcast.
Eh ben écoute, et peut-être un épisode 2 à venir pour la sortie d'un prochain roman.
Voilà.
On croise les doigts, on ne voit pas la caméra. On le fait et peut-être que je le masterai.
On va rendez-vous dans 4 ans.
Merci Manon, en tout cas.
Merci Laetitia.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en le partageant autour de vous à vos amis, votre famille, même à vos collègues de boulot, soyons fous. Je vous invite également à me rendre un immense service quand vous aurez 2 petites minutes devant vous en mettant une note 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Rendez-vous également sur Instagram, sur le compte Multivitamine Podcast, si vous souhaitez échanger, me poser des questions, ou tout simplement me faire un coucou, ce sera avec grand plaisir. Enfin, si vous souhaitez intervenir sur le podcast pour avoir un éclairage sur votre questionnement du moment, ou que vous souhaitez que j'aborde un thème sur un prochain épisode, je vous invite à me contacter par mail à l'adresse hellomultivitamine@gmail.com ou sur le compte Instagram Multivitamine Podcast, et pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines diffusions. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Multivitaminé, le podcast qui décomplexe.